Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
In case you haven't been briefed, this is the minister's interpreter. 23 minutes ago, her brain was hacked into through a data line. Foreign intelligence warned us about this. A hacker called the Puppet Master has begun to infiltrate terminals throughout our network. We believe it's extremely likely that he'll target the secret talks that are scheduled with the Republic of Gavel. As a precaution, we put everyone attending the talks under surveillance. It's my suspicion that once he hacked into her ghost, he'd use her to assassinate the key delegates.
So how much time do we have before this hacker breaks through her barrier program and reaches her ghost?
Roughly 2 hours. He's using an old-fashioned HA3 virus. After that, we'll have to break the connection to avoid any danger to the system.
Bato and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarks secondes.
Nous sommes le mardi 30 avril 2013, bonjour et bienvenue au 15e épisode de 24 quarks secondes, le podcast bimensuel des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons tant aimés ou pas parfois. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site internet 24quark.com, c'est 24quark.com. Et sur iTunes, bien sûr.
Quoi, quoi.
Je t'avais pas laissé la place.
Non, il voulait pas que je les ai.
Et cette semaine, on continue notre exploration du monde merveilleux de la robotique et de l'intelligence artificielle.
Non, c'est pas la robotique.
Bah, un peu quand même.
Cyborg.
Ouais, ok.
Ouais,
de la cybernétique. Okay, de la cybernétique et de l'intelligence artificielle. Avec
comme...
Attends, je vais juste finir avec le film d'animation japonais culte. Ghost in the Shell, on peut, ouais, c'est un film culte, on peut l'appeler comme ça, je crois.
Culte, je sais pas.
Donc, film de Mamoru Oshii sorti en, ça dépend où, en 1995, 96, ça dépend. En Amérique du Nord, c'était 96.
Pas possible.
Japon, 95.
Dans le temps, à l'époque, c'était long de revenir du Japon.
Ouais, c'est ça.
Mais culte dans le sens où s'il y a deux films très japonais, très manga, très dans le même style, qui ont marqué, qui sont les plus connus peut-être, qu'on les aime ou pas, c'est Akira puis Ghost in the Shell.
C'est les deux premiers qu'on lance.
C'est les plus
lancé.
Connus.
Ah, ouais. C'est ceux qui ont ouvert un peu aussi le...
Ouais.
La...
Parce avec qu'avant ça, il y avait
le manga à l'Occident.
Il y a les Miyazaki aussi qui étaient... Ouais, Akira a ouvert le manga à l'Occident.
Ouais,
Akira,
ouais.
Ça,
ouais, ça a créé la folie du manga en
Occident. Pour moi, Ghost in the Shell, c'est un autre produit. Tu sais, moi. C'est un peu comme... C'est un peu... Tu sais, Akira, c'est vraiment un film culte que beaucoup de gens ont vu, qu'il y a un following. Pour moi, Ghost in the Shell, c'est plus un truc presque un peu intello, ces bars-là.
Un peu intello, tu dis?
Non, mais dans ça, justement, tu sais, c'est trop complexe pour être vraiment avoir un following culte.
Ouais.
Ça fait pas 500 millions box-office, un truc comme ça.
Ouais, mais c'est pas comme Blade Runner, par exemple, c'est culte, puis ça traite du même thème.
Ouais.
Mais c'est beaucoup plus simple, tu sais, c'est ouais. Forme d'âme, ça. Tu sais, là, c'est... Puis c'est moi qui l'aime, qui l'a choisi ce film-là. Donc, c'est pas que je veux le descendre, là, mais je pense pas que. Tu sais, si tu te promènes puis tu demandes aux fans, est-ce que.
Comme on se lance directement dans le débat, là, c'est fou, hein?
Ouais, c'est vrai, il faut qu'on commence comme du monde.
Trop
vas-y.
Chose,
donc,
ouais.
C'était donc Marie-Louise Guerrier puis Olivier Sabineau.
On a déjà commencé à boire.
Ouais,
en
c'est
fait.
Ça. On est précoce ce soir.
Ouais, ce soir, on y va à fond.
Ah, on a déjà fini l'épisode, merci. Bonsoir.
Donc, et puis moi, évidemment, Nicolas Petsilas, comme toujours. Et puis, on va se faire un petit résumé tout de suite ou le vin d'abord? On annonce le vin d'abord?
Le vin d'abord. Toujours le vin d'abord.
Alors,
c'est vrai.
Alors,
ce soir, on commence avec un petit vin blanc.
Ah, deux vins de la même maison, il faut
ouais,
le dire.
On a deux vins
Marie-Lou
de la même
est
maison.
Inspirée
ouais.
Et la maison aussi.
Ce qui m'a inspiré, c'est le look qui pouvait faire penser BD, manga, même si c'est pas japonais parce que c'est Kung Fu. Girl. Mais
girl,
ça reste
ouais.
Asie, mais c'est vraiment, pour voir l'étiquette, là, ça fait vraiment...
On va mettre une photo.
Oui, on met les photos sur le site Facebook.
Ouais. On le met à chaque fois sur la page Facebook.
Sur la page Facebook.
Bah, Kung Fu Girl aussi, c'est à propos,
ouais.
Je veux dire.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même pas trop loin, parce qu'il y a évidemment la fille qui est arts martiaux.
Kick-ass.
Kick-ass girl.
Ouais.
Mais bon, ça aurait été mieux si ça avait été karaté girl. Là. On s'entend-tu
ouais,
qu'on
Kung
est...
Kung-fu girl, c'est bien aussi.
Ouais, c'est parce
c'est
que
parfait. Dites, personne ne va voir
ben, japonais...
Personne ne connaît la différence entre le kung-fu et le karaté.
T'as raison.
C'est vrai.
Mais c'est beaucoup l'étiquette qui m'a attiré quand j'ai vu ça et tout. Puis c'est ouais. l'autre qu'on va amener tantôt que j'ai trouvé encore plus drôle.
Ouais. Et il faut dire, c'est un vin américain, mais pas de Californie, de
non.
l'État de Washington.
Ouais. Ouais,
c'est
hein.
surprenant que ça peut être.
Ouais. Il est pas mal, il est sympathique. Nord,
c'est complètement au nord. En fait, c'est l'État mais le plus au nord.
Étonnamment, aux États-Unis, il y a d'autres régions hein, qui développent le vin, comme par exemple au New Jersey, il y a d'excellents vins aussi. Étonnamment, New Jersey qui est pas très
Québec,
loin.
Il y a des bons Québec qui sont encore plus au nord.
Non, ça, c'est pas vrai, par exemple.
Il y en a quelques. Bon
bienvenue
site.
À ce podcast
c'est
sur...
De glace. C'est de glace.
Ok,
je serais très heureuse qu'on découvre des bons vins au Québec, mais j'en ai pas goûté encore.
Il y en a des bons vins au Québec, moi j'en ai goûté. J'ai pas de nom là comme ça qui me vient, mais il y en a.
Trouve-le, parce que moi on m'a toujours dit, lui c'est un bon vin, puis tu goûtes ça, puis c'est comme genre...
Ah là 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 là.
Ah là là.
Donc si vous entendez du bruit derrière moi, c'est parce que ce soir il fait chaud à Montréal.
C'est l'été.
C'est l'été. Enfin l'été.
C'est l'été.
C'est enfin le printemps. Il y a un beau, beau printemps et il fait chaud. Et donc on a regardé la fenêtre ouverte, c'est pour ça qu'il y a des petits bruits parasites parfois. Donc on s'en excuse d'avance.
On est pratiquement dehors.
On est pratiquement sur la terrasse de Marie-Louise. Donc, mon petit résumé. Alors, en 2029, le monde est interconnecté par un vaste réseau électronique permettant de pénétrer tous les aspects de la vie. Ce même réseau est aussi un champ de bataille pour l'unité spéciale antiterroriste section 9 de la police de Tokyo, menée par l'officier cyborg... Qu'est-ce que c'est que ça ? Motoko Kusanagi, chargé d'appréhender l'insaisissable hacker Puppet Master... capable d'infiltrer les cerveaux connectés afin de les déposséder de leur mémoire et d'en prendre possession de leur corps. Cette enquête amène Kusanagi à remettre en question la nature même de son existence. N'est-elle qu'un être artificiel ou son enveloppe cybernétique cache-t-elle autre chose ?
Ah, c'est ça l'histoire.
Disons que c'est à peu près ce que j'ai compris aussi.
Ah, non, c'est très.
Parce que c'est quand même pas mal compliqué. Donc, et alors, comment, quand c'est que vous avez découvert ce film pour la première fois, chers amis ?
Ah, Marie-Louise, comme c'est toi qui es ici.
Moi, j'ai découvert ce film-là à Fantasia, si je ne me trompe pas.
Ah, ouais.
En 96, probablement. Donc,
Fantasia,
même, peut-être, peut-être même 95, peut-être même 95. Je pense que c'était la deuxième édition de Fantasia.
Ouais, cool. Pour ceux qui nous
je l'ai vu au cinéma.
Pour ceux qui ne sont nos écouteurs, qui, nos écouteurs, nos auditeurs, excusez-moi. Pourtant, on vient de commencer le vin. Nos auditeurs qui ne sont pas au Québec, car il y en a. Donc, Fantasia, c'est un festival de films fantastiques ici à Montréal.
Écoute,
qui est vraiment...
Qui est parti pas... sur le film principalement asiatique et japonais.
Ouais.
Qui s'est
à l'époque, c'était pratiquement juste ça. Là, je dis Fantasia, je suis vraiment sûre à 95%, mais je me rends compte que c'est tellement drôle. Au fur et à mesure qu'on écoute des films, la difficulté que j'ai de me rappeler exactement certaines choses. Ce que je me rappelle très bien de ce film-là et mon écoute d'hier et de tantôt m'amène dans d'autres états, c'est que quand je l'avais vu, ça, j'avais été mystifiée de la beauté de l'animation. À l'époque, là, c'était en 95.
À l'époque.
En 96. En 96, non, mais tout le monde en avait parlé. Là. C'était vraiment un chef-d'œuvre d'animation au niveau des dessins, de la qualité, etc., etc. T'sais? Donc, ça me fait réaliser qu'on a beaucoup évolué en
Et
pratiquement
bon, hein,
20, 15...
Ben, presque 20 ans.
Presque
ouais.
20 ans.
Ouais.
Presque 20 ans. Ben, c'est l'air de rien, tu sais, je veux dire. C'est fou comment on s'habitue à une certaine qualité d'animation, puis on est comme genre « Ah! Yeah! » Tu sais? Voilà, ça c'était mon écoute. Puis c'est ça, en le réécoutant hier, mais j'ai été un petit peu. Mais faut dire, j'ai une version vraiment crappy, là, comme vraiment poche sur Internet, là, que j'ai trouvé.
Tu aimes ce film, tu l'as mis dans la liste et t'as même pas une copie décente.
J'ai voulu, mais ça, je peux en glisser un mot, j'ai voulu aller l'acheter sur Internet. Je n'ai pas de lecteur Blu-ray, OK, parce que j'ai pas de télévision et je suis pas une gamer, donc du coup, je n'ai pas rien pour.
T'as besoin d'être une gamer pour avoir un Blu-ray. Hein.
Ben, tant que t'es sur Mac, je veux dire, ça vient pas avec, là, en ce moment.
Mais il y a des lecteurs très bons et pas très chers.
Puis, du coup, j'avais l'option de le télécharger, comme je vous ai montré, à 38 gigs. gig d'Internet. Ce qui, ma connexion Internet, ne me permet pas. Information.
Tu n'as pas tout compris. Il faut qu'on t'explique.
J'étais un peu fru de voir qu'iTunes vendait juste la version style DVD en standard. Là. Je me serais attendu qu'iTunes... Puis c'est ça, on est encore dans une époque, juste commentaire éditorial, on est encore dans une époque frustrante où est-ce que tu veux acheter quelque chose, mais legit, là, moi, j'étais prête à payer parce que c'est comme un film que j'aime. Ouais, j'adore l'animation, j'ai tout japonais.
Moi aussi, je regarde tout de suite, je regarde sur iTunes s'il est disponible. Après, c'est Netflix, tout ça, tu sais.
Parce que je sais qu'il a été remasteré. Ben c'est ça, tu nous disais, il a été remasteré
En 2008, ouais.
En 2008. Puis j'espère avoir cette version-là.
Mais il y a les deux versions qui existent sur le marché. Simplement, la version de 2008 est moins connue. Enfin, je sais que c'est celle qui existe en Blu-ray. Je ne sais pas si la version originale existe en Blu-ray. Je sais pas cette info.
Ben, j'imagine que non. Ils ont
il me semble que j'avais regardé sur Amazon, mais je ne l'avais pas.
Ils ont dû sortir cette version-là en Blu-ray. Ça devait être pour ceux qui l'ont fait.
Le je l'ai vu sur le site de Future Shop, genre pour 10$, le Blu-ray. Mais
le Blu-ray de la version originale.
Je ne pourrais pas dire c'est quelle version des deux. Si j'ai vu ça tout petit.
Parce que, tu as donc Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2.0, à ne pas confondre avec Ghost in the Shell 2 Innocence.
C'était bien et bien le premier, mais c'était pas la même image que j'ai vue sur l'ordinateur tantôt. Okay. Donc, j'ai peut-être l'impression que ça ressemblait plus à la pochette qu'on connaît.
Alors, donc peut-être.
Bah, en tout cas, une chose est certaine, c'est que la version crappy que j'étais avec les sous-titres, alors là, ça, c'est quelqu'un qui a traduit du japonais, qui est probablement japonais de naissance.
Qui n'a pas l'air de langue anglaise non plus.
Non, puis qui ne sait pas les règles du sous-titre, parce que les amis, quand on fait des sous-titres, je vous le dis, si vous craquez des films, alors il faut réduire.
Il y a des règles.
Il y a des règles pour faire des sous-titres. Ouais. C'est très important. Il faut que la personne ait le temps de lire ce qui est écrit. Ouais. Donc, j'ai pas eu une très bonne expérience à revoir ce film récemment, mais on va en parler plus tard.
Moi non plus.
Okay.
Visiblement, on sent Olivier.
Vous voyez venir. Hein?
Ben, vas-y, Olivier, alors. Vas-y. Raconte-nous.
Moi, je suis plus certain de la première fois. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'avais un ami qui trippait sur les mangas. Donc, on en avait écouté plusieurs. Ben, Akira, c'est certainement le premier sur la liste. Puis je me demande encore aujourd'hui, j'ai-tu vu ce film-là à l'époque, quelque part pas longtemps après sa sortie, là, fin 90, début 2000, ou si je l'ai vu vraiment pour la première fois hier soir. Je suis vraiment pas certain. Oh. C'est la première fois que j'ai vraiment un doute à ce niveau-là. Habituellement, je me rappelle toujours.
OK, Olivier, officiellement, on peut dire que depuis hier, t'as vieilli. Il arrive un temps où est-ce qu'il y a des choses qu'on se rappelle plus comme ça.
J'ai une mémoire très bizarre. Je me rappelle souvent des trucs qui sont pas importants, qui sont un peu stupides ou rigolos. Mais les films, c'est
on ne pourrait pas avoir ta première impression de la première fois que tu l'as vu, si tu l'as vu il y a comme une quinzaine d'années, parce que tu t'en rappelles pas.
Ben, ce que je peux dire des plusieurs mangas que j'ai vus à l'époque, sans parler de ce film-là en général, mais peut-être du style en général que je découvrais, j'ai jamais vraiment embarqué à 100%. Il y a des choses qui me fascinent, il y a des choses que je comprends pas du tout, mais il y a une grosse différence culturelle aussi, je pense, qui rentre en ligne de compte au niveau de la mise en scène, la façon de raconter les histoires.
C'est vrai, t'aurais pas aimé Pathé Royal, toi. On avait juste une discussion là-dessus. Donc, il y a une consistante en tout japonais. Pourtant, t'as un auteur japonais que t'aimes beaucoup.
Il y a des films japonais qui me font sidérer. Sion Sono, qui est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps, fait les films les plus flyés de la Terre. C'est un japonais. Fait des films, à chaque année, des films de 2, 3, 4 heures. C'est un fou furieux. Mais c'est peut-être. Non, c'est pas le manga, parce que Battle Royale, c'est pas du tout du manga.
Non.
Je sais pas, il y a quelque chose que je capte pas tout à fait.
Ah, c'est mon défi, c'est de trouver. Mais les Miyazaki. Spirited Away, t'as jamais vu Spirited Away? Tu peux pas trouver Spirited Away.
Peut-être à l'époque, j'en avais quand même vu une coupe. Il y avait
La petite fille que ses parents se transforment en cochon.
Un beau boy.
Il est excellent, lui.
J'ai vu, c'est quoi les autres? My Neighbor Totoro.
My Neighbor Totoro, c'est un des plus connus.
Ça, j'ai pas compris à moitié, mais j'ai trouvé ça vraiment
fort. Princesse Mononoko, mais ça, c'est pour enfants, là, les Totoro. C'est petit enfant, là, je veux dire. C'est pas pour ados.
Mes enfants adorent ce film.
C'est ça.
Moi aussi, en fait. Moi aussi, je trouve ça magique. Il y a un truc.
Ah oui, c'est fascinant, là.
Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi le château?
Il y a le château. Attends, parce qu'il y en a deux châteaux. Il y a The Howling Castle. Et puis, il y a le château suspendu et le château qui marche. Je sais plus. Enfin, il y en a deux, je crois. Je sais plus les titres en tête là. Il y a Porco Rosso qui est plus un truc d'aventure. Il y a quoi? Puis il y a les tout vieux là, les ceux qui sont plus science-fiction, un peu plus. C'est Nausicaa. Nausicaa, c'est un des plus vieux, je crois. Il y a quoi d'autre?
En tout cas, visiblement,
La Princesse Mononoké.
Princesse Mononoké.
Ah oui, juste là.
Ah oui, ça oui.
Enfin bon, Ponyo, il y a eu dernièrement, récemment, qui est une espèce de, c'est la vision de Miyazaki de La Petite Sirène. Enfin, il y en a des trucs, quoi. Et ça vaut vraiment le coup.
Mais sinon, s'il y a une chose...
Rien à voir avec le manga.
Non? Non. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans, parce qu'il y a un jeu vidéo, puis moi, je ne suis pas très gamer non plus, mais à l'époque, il y a Final Fantasy VII qui est sorti. Je ne sais pas si on peut rentrer ça dans la catégorie manga, parce qu'au niveau de l'histoire et du visuel, ce jeu-là était absolument hallucinant. À plein niveau.
Ouais, j'ai jamais joué à ça, mais j'en ai entendu beaucoup, beaucoup parler. Bah, toute la série Final Fantasy.
Ils en ont fait une quantité industrielle, mais ça, c'est un des épisodes qui est le plus marqué parce qu'il était vraiment réussi.
Je suis en train de regarder ça définitivement du dessin de manga.
Non, mais ça, c'est parce qu'ils ont fait un film en manga après, mais moi, je parle du jeu vidéo. Ça, ce que tu vois, c'est des images du film. Puis il y a eu un film en vrai aussi. Mais le jeu en tant que tel, c'est un jeu où tu passes 50 heures à passer.
Final Fantasy, il y a eu deux films. Il y a eu The Spirits Within et Advent Children.
Mais ils ont eu aussi Final Fantasy VII, adapté du jeu en manga, en animé,
okay.
Qui est une production japonaise.
Hey, okay.
Ça, j'ai jamais vu.
Fidèle à notre tradition qu'on a instaurée depuis quelques épisodes, on s'éloigne du film façon formidable.
Il y a quand même des choses que je trouve absolument fascinantes et brillantes et merveilleuses dans la culture japonaise, mais que la moitié du temps, je comprends pas.
Ouais.
Bref, Nick, toi, qu'est-ce que tu as découvert?
Je l'ai vu, en fait, je l'ai vu, ça devait être en 96 ou 98, par là, quand il est arrivé en Europe en DVD. Je l'ai vu à ce moment-là. Je me rappelle plus si j'ai vu celui-là d'abord ou Akira d'abord, parce que je sais que c'était plus ou moins...
La même époque.
Ouais, je l'ai dû les voir en plus ou moins en même temps, les deux.
Qu'Akira, c'était
juste avant, ouais.
C'est okay. Sûr qu'Akira 14, est beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple à comprendre, là. C'est pas aussi philosophique.
C'est 1988, Akira.
88?
Ouais.
C'est vieux.
Wow.
C'est vieux. Mais je l'ai vu assez tard. Chez Akira, je l'ai vu assez tard.
Ben Akira, moi, je pense que je l'ai pas vu. J'ai lu la manga, mais je pense que j'ai pas vu le film, en fait.
Mais donc, j'avais pas lu la manga. Enfin, je n'ai jamais lu la manga de quoi s'est inspiré. Donc, c'est qui? De Masamune Shirow, c'est ça, l'auteur?
L'auteur, ça serait Asimo...
Non, le créateur de Ghost in the Shell, pas de Akira.
Ah, Ghost in the Shell. C'est... pardon.
Oui, parce que je te rappelle, c'est de Ghost in the Shell dont on parle, c'est ça.
donc c'est l'auteur de Ghost in the Shell, c'est Masamune Shirow.
Ouais.
Sept fois, back à back, sans se tromper.
Ouais, non, et je vais même pas essayer. Et donc c'est ça, qu'est-ce que je disais? Oui, que je l'avais vu à l'époque. J'avais beaucoup apprécié le style, c'était surtout le style graphique qui me plaisait beaucoup.
Beau,
ouais, c'était ça, il y avait certaines scènes dont je me rappelais très bien encore. Ouais. Je me rappelle d'avoir trouvé la chose très compliquée déjà à la base. De ne pas avoir tout compris, je crois, la première fois.
Non,
puis même à le revoir l'autre soir, là. En plus, je l'ai revu doublé parce que je voulais être sûr tu sais, je voulais être concentré sur le film, pas avoir à lire, pas être sûr de rien perdre. Mais en fait, c'est encore plus compliqué parce que je pense que quand tu lis une version sous-titrée, finalement, le sous-titre, il te permet il synthétise un peu le contenu. Enfin, il me semble, si c'est un bon sous-titre, pas le truc cheap que t'as trouvé sur Internet.
Si c'est le sous-titrage
officiel.
J'ai l'impression de pas avoir vu le film.
Puis là, je l'ai vu en français, et puis c'est un de ces vieux doublages français où, tu sais, ils y vont dans les grandes phrases avec des grands mots, machin, etc. J'aurais peut-être dû le voir avec le doublage anglais, peut-être.
Les Américains, si c'est eux qui ont fait la traduction, sont tellement pas habitués de faire du doublage qu'en général, c'est pas vargeux.
Ouais, mais
non, pour les animés,
ils sont très forts pour le dessin animé.
Beaucoup. Il y a même toute une culture de ça.
Ils sont très forts pour le dessin animé.
Traditionnel, ça c'est.
Tu vas aller à quelque chose comme l'Otakuton, OK? Puis tu vas avoir des voix américaines de manga qui vont venir signer des autographes, là.
Oh!
Ouais.
C'est pour te dire, c'est même pas juste comme des Japonais. Des fois, il y a des Japonais qui viennent, c'est comme fou.
Peut-être qu'effectivement, à cette époque, comme c'était le début.
Non, c'était pas le début. T'avais toutes les Albator, les Goldorak, toute l'animation japonaise. C'est drôle qu'on parle du début de la manga puis de l'animé japonaise quand dans le fond pas du tout. Moi j'ai passé mon enfance à délirer sur les Albator.
C'est juste que c'était moins courant. Je dirais. Même Albator puis Captain Flamme, ces choses-là, ou la plupart même des dessins animés épiques de l'époque, on se doutait même pas que ça se rapprochait du manga là.
Mais ça venait du manga. Albator,
oui,
c'était du manga.
Clairement, aujourd'hui, on s'en rend compte, mais à l'époque, on était tout petits, on faisait pas lien.
C'est juste un truc cool avec un pirate.
C'est un marché. Mais ce que je veux dire, c'est je veux dire que depuis les années 75, disons 80, si on veut. Mais plus que ça, moi, je suis
en 70.
Oui, c'est ça. Moi, je suis née en 73, puis donc j'étais tout petite quand le batteur est arrivé ici, là, comme j'avais 6-7 ans. Donc,
ouais,
ça veut dire...
un petit peu plus vieux, mais pas tellement.
Puis donc, du coup, tout, ça faisait quand même 15 ans là, qu'on avait Danny. Puis il y en a eu plein après. Là, il y a eu ceux-là, mais il y en a eu plein d'autres.
C'est vrai. Mais ça, la moitié,
ça
on suspecte même pas. Même les Transformers, c'est... Je me trompe en disant que c'est japonais?
Non, les Transformers, c'est américain. C'est pas japonais, non. Ah.
C'est une bonne question.
Non, non, c'est américain. Si je me trompe,
G.I. Joe, on se posera pas la question.
Je suis quasiment certain que c'est américain. Il y avait d'autres choses japonaises.
Les Goldorak étaient japonais.
Goldorak, c'est japonais.
Puis donc, ont été carrément très inspirés.
C'est peut-être les Gobos. C'est les Japonais qui ont copié les Américains.
Peut-être.
C'était quand même pas mauvais, les gobos.
Mais c'était des jeux à la base, je pense, les Transformers. C'était vraiment des jeux.
Juste pour finir,
jouets.
La petite parenthèse, il y a une bande-annonce d'un film, un film d'animation 3D de Albator, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu en ligne, mais.
Oui, c'est assez badass. Ça a l'air complètement fou, là, puis ils ont mis le paquet.
C'est assez badass.
Ça a l'air très noir et très glauque.
Je ferme la parenthèse. Donc.
Japonais, en plus. Hein,
ouais, le preview est en japonais.
C'est même pas le bâton.
Ouais,
là.
Oui, c'est quoi? Oh,
Captain Holkoro.
Un truc du genre. Et à revoir le film, en fait, j'ai pas tellement plus compris finalement, parce que c'est tellement complexe.
Il y a du japonais dans les Transformers, je suis désolée. Ah,
mais parle dans ton micro, s'il te plaît, parce que sinon.
La série, c'est des gens robots écrits.
Japon, Corée du Sud, vois-tu bien?
Quoi?
Non, ça a été animé, mais c'était écrit en... Written and recorded in America. OK. Obeys upon the Diaclone and Microman. Storylines. OK, ça a été basé sur des jouets qui s'appelaient les Diaclones et les Microman qui viennent du Japon.
Ah.
Manufacturés par Takara. Okay?
Mais c'est pas Hasbro donc... qui a fait ça?
C'est Hasbro qui a repris la franchise.
Ça a été repris. Parce qu'en fait, ils ont commencé, il y avait les versions japonaises, ils ont fait des cartoons avec ça, et puis après, à partir des cartoons, ils ont fait les Transformers.
Ah, j'aimerais savoir les originaux de ça, les cartoons japonais, ça doit être
Donc, tout ça pour dire que, et en fait, après avoir revu l'original de Ghost in the Shell, je me suis dit, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil à la version, parce que donc en 2008, Mamoru Oshii lui-même a ressorti Ghost in the Shell, mais une version updatée.
Mais c'est-tu juste une remasterisation ou ils ont fait un remontage?
C'est une remasterisation. Non, c'est, le contenu du film n'a pas changé, l'animation, il a gardé la même animation à part certains plans ou certaines parties d'animation.
Comme George Lucas.
C'est fait avec plus de finesse que,
ça, c'est pas
que George. il a comme un peu, si tu veux, un peu actualisé certains effets. Mais franchement, ça enlève absolument. Je veux dire, le film reste le même. Simplement, voilà, t'as certaines couleurs dans certaines scènes qui
ont
changé.
C'est pas plus clair, c'est pas plus simple.
Non, c'est exactement la même chose. Non, ils ont actualisé un petit peu le texte à certains endroits, d'après ce que j'ai lu. Le son, évidemment, est remixé en 5.1, etc., ce qui n'était pas le cas avant. La musique est, sauf erreur, la même, je crois.
C'est pour toi qui disais tantôt, Marie-Louise,
qu'il y a une version,
la musique n'est pas la même.
Non, en fait, ça, c'est dans la version anglaise, le générique de fin, c'est pas la même chose que la version japonaise. C'est pas le thème de Kenji Kawai qui est sur la fin. C'est une tune de Brian Eno et Bono.
Oh my God.
Mais qui est pas mal au demeurant, qui est plutôt bien, quoi, qui est assez atmosphérique, plutôt bien. Mais donc rien à voir avec la version originale de Kenji Kawai. Mais donc voilà, puis donc j'ai juste regardé comme ça rapidement. C'est une version anglaise que j'ai trouvée, c'est un pirate du Blu-ray que j'ai trouvé en fait. Et c'est assez beau en fait, la réédition, elle est assez belle, quoi. C'est cool. C'est juste qu'il a introduit du CG à certains endroits où auparavant c'était un peu sketchy, tu sais. Ouais, mais ça va. C'est franchement, à certains moments, ça peut paraître un peu bizarre parce que t'as de l'animation, puis tout à coup, boum, tu vois ton personnage en CG, tu sais, pour une scène particulière. Globalement, ça reste le même film, quoi. Ça reste le même film, il a pas changé le rythme, il a rien changé, tu sais, c'est de la même histoire.
Il a pas changé
toujours.
Le rythme, il aurait dû.
C'est vrai que c'est un film, enfin.
Mais il y a des bizarreries de montage dans ce film-là.
Tiens, ben, on va se voir un petit extrait juste avant de se lancer dans le démontage du... Allez, petit extrait.
What's a simulated experience again?
Well, all your memories about your wife and daughter are false. They're like a dream. Someone's taken advantage of you. They were trying to make you ghost hack into some government officials. Do you understand what I'm saying?
But that can't be.
I've been to your home. It's a bachelor's apartment. No one's there.
But I already told you, I rented that room when I separated from my wife.
I checked the records. You've been living there over 10 years. The truth is, you've never had a wife or kid. Like he said, they aren't real. They're a simulated experience, a fantasy.
Look, this is the photo you showed to your coworker. Who do you see?
I had a picture of her. She was there. She was smiling like an angel.
What's her name? How old is she? Where'd you meet your wife and when did you marry her? I'm sorry to put you through this, pal. Come on, who do you see?
If this is all a lie, what happens? Will I get my old memory back?
Your original memory will never be fully restored, and there might be residual simulation. We don't have the technology yet to handle Cymex erasures. I'm sorry.
Ben, on parlait tantôt de Miyazaki.
Ouais.
Puis justement, un des trucs qui est intéressant, c'est que Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell, c'est bien ça, c'est Oshii.
Oui.
Mamoru Oshii fait partie des gens qui étaient au début du studio Ghibli. Il a travaillé avec Miyazaki au début. Là, j'ai lu quelque part qu'il était fondateur, mais j'ai l'impression, je ne suis pas sûre qu'il était comme fondateur. Là.
En tout cas, il faisait partie.
Il faisait partie des réalisateurs qui ont travaillé, etc. Ouais. Puis bon, ils se sont, il a quitté donc, pour différentes créatives. Puis je trouvais ça assez intéressant parce qu'il dit sur Wikipédia que les réalisateurs sont toutefois il y a comme une chicane créative. Hein. Ils n'ont pas eu la même vision créative. Puis les réalisateurs sont toutefois restés respectueux, mais sceptique vis-à-vis du travail des autres. Oshii critiquant le côté idéaliste des films de Miyazaki, il n'y a pas tout à fait tort, et celui-ci, donc Miyazaki, reprochant à Oshii de ne pas chercher assez le divertissement. Et je crois que Olivier serait d'accord avec cette assertion.
Ben c'est pour ça que Miyazaki, ça va te plaire.
Qui explique pourquoi à l'époque j'aimais ce genre de film-là, parce que j'étais très, très, très dans les films, pas particulièrement divertissants. Alors, c'est qu'est-ce que tu reproches au film, Olivier, pour rentrer dans le vif du sujet?
Par où commencer?
C'est bien, pour une fois. C'est le deuxième film sur lequel les avis divergent. Non, c'est pas le deuxième. Il y a eu
Bataille Royale, justement. On se souvient de Bataille Royale.
Un autre film japonais.
C'est vrai.
Je pense qu'on n'était pas d'accord. Ben, remarque, quand tu l'as vu, le truc d'extraterrestre qui se faisait enlever par...
Fire in the Sky. Ça, ça n'a pas fait l'unanimité.
Non. Mais même toi, tu avais des doutes aussi après.
Ben, en le revoyant, le film a mal vieilli, mais il m'avait marqué une certaine époque.
Comme moi,
avec Ghost in the Shell.
Il m'a marqué une certaine époque, puis je dois admettre qu'aujourd'hui, j'ai...
Ouais, ça a peut-être un peu vieilli.
Ouais.
C'est pas tant que ça a vieilli. Je pense que c'est une drôle de façon de raconter une histoire. Mais tu sais, n'importe quel film, on part toujours d'une histoire. Hein. On s'entend, là, à la base, je pense qu'on se comprend là-dessus, Marie-Louise, mais n'importe qui, ou si c'est un bon film, à la limite, la réalisation peut être complètement ordinaire puis plate. Mais si l'histoire est bonne, on a tendance à embarquer dans l'histoire. Ça prend une histoire qui est emballante, qui est originale, qui est clair. Je pense que c'est peut-être une des grosses failles majeures du film. Il y a beaucoup de problèmes de clarté dans le film.
L'histoire n'est pas compliquée. Quand tu y penses, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il la rend très compliquée.
C'est ça, pour rien. Toute la première moitié du film, j'étais complètement perdu. Il y avait des scènes, une après l'autre. Ils introduisent des nouveaux personnages, il y a des nouvelles poursuites. À un moment donné, je comprenais plus du tout ce qui se passait. Puis là, à un moment donné, ils sont rentrés dans le vif du sujet, qui est d'ailleurs un sujet super intéressant.
Ouais.
Vraiment.
Ça,
puis
ils
en ont parlé avant bien d'autres films auxquels on peut le comparer. Comme, j'avais l'impression que c'est un genre de mélange entre La Matrice, iRobot, puis un paquet d'autres films qui peuvent rentrer dans les films dont on parle.
Je pense que tu sais.
Ils en ont parlé Blade Runner, tout à fait, au niveau de l'ambiance.
Les frères Wachowski, les frères et sœurs maintenant.
Ben c'est ça, il a dit à la base.
Ils ont clairement dit que Ghost in the Shell, c'était une des inspirations.
C'était
clairement une des inspirations. D'ailleurs, il y a des scènes qui sont
même Terminator,
complètement.
Skynet, qui était un espèce de programme qui a pris naissance.
Mais Terminator date d'avant.
C'était avant, c'est 80.
Terminator. Même les deux premiers Terminator.
Mais Jim Cameron, typiquement considère ce film aussi comme une référence.
Ah mais ils parlent tous du même sujet, puis on l'aime ce sujet-là. C'est super, il y a plein de choses à dire. On n'a même pas. Les réalisateurs ou les scénaristes n'ont pas passé à travers tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet-là. Mais je trouve que c'est mal exploité parce que on n'arrive pas. Moi, j'ai pas réussi à embarquer dans son trip parce que c'est trop cacophonique. C'est comme un orchestre symphonique qui. Où chaque département là, que mettons les vents versus les cordes versus les bois versus les machins, on dirait qu'ils jouent toutes des partitions différentes. C'est vraiment l'impression que j'ai eue.
Mais moi, je soupçonne que le fait que ça vienne d'une manga, c'est le classique genre qu'on essaie de mettre quelque chose qui demanderait du développement. Tout l'épisode, par exemple, avec le camion de minage, du gars, puis de sa femme, je sais pas c'est quoi la manga, je l'ai pas lu, mais je peux imaginer que c'était tout un volume de la... C'était comme, tu sais, la manga, c'est comme des séries, là, c'est plusieurs, tu vas avoir 12 volumes.
Ça, c'était comme un épisode.
Ben, j'imagine très bien que, tu sais, genre, je l'ai pas vu, mais j'ai l'épisode qui commence avec le gars qui parle de sa femme, puis t'as toute cette espèce de drame-là, qui, là, est vraiment mis en moins de 10 minutes. Donc, du coup... Mais du coup, tout le drame de ce personnage-là, qui est super intéressant, parce que tout ça, ça fait une belle histoire. Dans la manga, il est comme étendu. C'est le classique, genre, comme faire Le Seigneur des Anneaux en trois films. C'est comme faire, tu sais, c'est toujours vouloir ramener des choses qui sont longues.
Trop mettre tous les chapitres sans vouloir couper, mais on synthétise trop, donc on arrive finalement à élaguer des choses super intéressantes.
Ouais, probablement. Puis dans la manga, ben c'est ça, c'est comme te, tu sais, une manga que j'aime beaucoup, c'est Death Note, mais ça au moins c'est une série là, c'est des demi-heures qui durent sur 23 épisodes, puis au moins t'as tout le temps le personnage se développe, t'as tous les personnages secondaires. Il y a plein de
la série télé.
C'est ça, il y a plein
les films des fois. Hein.
Exactement. Donc Ghost in the Shell aurait peut-être été mieux servi dans une version ou peut-être. Faire au moins 2-3 films là, autour de ça. Là.
Dans le même ordre d'idée, c'est drôle, hein, parce que je parlais de la Matrice tantôt, mais ils ont sorti le film Animatrix, qui est plusieurs courts-métrages d'animation,
génial,
certains de style manga, d'autres pas du tout, mais qui me fait penser à ça, parce que c'est plein de chapitres qui ont absolument rien à voir les uns avec les autres, mais qui, mis ensemble, finissent par compléter un certain univers. S'il avait peut-être fait quelque chose dans ce style-là avec Ghost in the Shell en prenant chaque petite histoire, parce qu'on dirait qu'il y a trop,
y a trop
d'histoires qui n'ont pas rapport ensemble, qui sont jamais complétées, de des personnages que tu vois à un moment donné que tu ne revois plus jamais, à tout bout de champ, ben pourquoi pas avoir fait vraiment des chapitres vraiment très distincts les uns des autres, puis là on comprend qu'il y a un chapitre qui est clos, on passe à d'autres personnages et machin.
Bon, c'est une écriture qui est liée à une culture différente aussi, donc moi je suis pas... Toi tu connais ça bien, Marie-Louise, enfin mieux que nous en tout cas, Marie-Louise.
Ouais, j'ai une certaine connaissance,
ouais, manga, et puis de la manière d'écrire et tout ça, mais pour... Enfin,
au niveau de l'écriture, écoute,
Mais toi, si je compare à Akira, par exemple, Akira est beaucoup plus facile à comprendre.
C'est beaucoup plus mainstream, divertissant, comme l'on disait.
Ben Akira, c'est du pur shonen, là, comme on appelle. Là. C'est comme la truc pour jeune ado, c'est genre où jeune ado attardé. Là. C'est vraiment un truc gars, simple, action, action, action. Ouais. Là, je trouve que là-dedans, il y a un petit peu... ils sont comme dans un autre type d'écriture un petit peu plus vieux aussi. Un truc que je vais mentionner, que j'ai oublié de le dire tantôt, moi, ce qui m'avait vraiment frappé avec Ghost in the Shell, ça, c'est vrai, c'était, je crois que c'était la première animation pour adultes que je voyais de ma vie. Que j'avais vu des animations faites pour enfants. Okay. Ça aussi, c'était impressionnant.
Ouais,
une époque où tout ce qu'on avait vu, c'était justement des albatars, Goldorak.
Quoi, t'avais pas vu Félix le Cat et puis tout ça?
Oui, mais OK, ça, j'avais vu ça, les Daffy Duck et compagnie, mais c'était des trucs pour enfants, là, pour nous.
Un film de Disney, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants, ça.
Oui, c'est ça.
Des références sexuelles,
par contre. Il y a plein de références connues.
OK, j'ai peut-être lâché le cerveau. Moi, le truc sur Internet là, qui demande ça puis qui disent les enfants ne voient pas ce que vous voyez. Moi, je suis comme, mais quoi, il y a des dauphins puis des nonos. Qu'est-ce qu'ils sont supposés voir? Que je regarde comme vous, bien comme, oh mon Dieu!
Mais pour compléter ton idée, les films de Pixar sont un excellent exemple. Les Pixar Disney, là, surtout, mettons, des exemples comme Monsters Inc. ou Wall-E ou Ratatouille, c'est des films pour enfants, mais qui ont complètement un deuxième niveau de lecture qui est absolument fascinant pour un adulte qui voit des choses qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont beaucoup plus profondes et senties, plus proches de l'émotion. Monsters Inc., c'est le meilleur exemple. Il y a tout un sous-texte qui bâche sur le capitalisme, sur un paquet de trucs, mais les enfants ne vont jamais voir ces trucs-là. C'est fascinant d'avoir une double écriture comme ça. Là.
Là, en plus, c'est comme ça, c'est vraiment carrément de l'animation vraiment purement pour adultes. Encore là, j'avais pas vu clairement. Akira, mais Akira, ça reste quand même ado. Là. Il y a comme...
Ouais, c'est pas mal violent quand même, je veux dire.
C'est violent, mais ça reste quand même ado dans le sens que Ghost in the Shell, c'est adulte. Là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est vraiment.
C'est intello, c'est philosophique.
C'est exactement. Il y a des longueurs, etc. Puis...
Oui,
mais en même temps, les longueurs, t'as tout ce côté genre, tu sais, faut montrer du cul de la fête. De la fesse du nichon parce que
c'est le truc ça qui... c'est manga là.
Ça c'est manga,
d'ailleurs
qui est lu par les messieurs les messieurs en costard dans le métro japonais.
Bon. Ça, d'ailleurs, je dois dire, habituellement, j'ai rien contre la nudité au cinéma, la violence au cinéma, mais j'ai toujours besoin qu'on me le justifie.
Ouais.
Sinon, je trouve ça gratuit. Dans ce film-là, j'ai trouvé ça borderline gratuit. J'ai pas vu aucune raison pourquoi il fallait mettre le robot à poil. Je l'ai apprécié en le voyant, mais j'ai pas trouvé de raison.
À mon avis, ça, c'est un truc culturel japonais.
C'est très lié à la...
C'est le manga, c'est complètement culturel japonais.
Je vais te montrer. Il faut tellement que tu regardes ça. Ça, c'est la manga. Je t'avais déjà montré.
C'est quoi ça?
Ça, c'est Gantz. OK, ça, c'est une manga qui est vraiment... C'est une parodie, en fait.
C'est pour des grosses boules, t'as.
Oui, oh, et puis regarde le gars. Puis ce qui est drôle avec ça, c'est que ça, tu vois, cette photo-là, là, c'est genre, c'est toujours la première...
Donc, pour nos auditeurs,
je vous conseille Gantz, G-A-N-T-Z.
Voilà.
C'est... Sur le coup, quand j'ai lu ça au début, je l'ai pris comme au premier degré. Puis j'étais comme presque insultée. Puis à un moment donné, j'ai fini par comprendre que c'était juste une pure parodie, justement, du genre manga. Mais en même temps, le gars, il aime ça, là, il se prend au sérieux. Mais c'est hilarant, là. Puis là, là-dedans, c'est comme justement de la violence gratuite, juste ça. C'est tout ce que t'aimes pas. C'est comme des filles à poil tout le temps, pour aucune raison. De la violence gratuite, non-stop.
Bon, à part ça, c'est très drôle. Tu prends le comic book américain, je veux dire, les héroïnes dans leur spandex.
Ouais, non, c'est pas tellement.
Ça va, les formes et
c'est
tout.
Culturel.
C'est bon, on a tout, là. C'est culturel. Et dans culturel, il y a
Q.
Donc, donc on y est, quoi.
Ouais.
Mais moi, ce qui m'a frappé...
Il y a d'autres
dans...
mangas, ils ne sont pas tous comme ça, parce que tu as des mangas typiquement pour filles, sont plus... Ben, enfin, il y a beaucoup...
C'est drôle, quoi.
Il peut
les
avoir
mangas
beaucoup...
typiques pour filles.
Il peut y avoir
c'est
beaucoup de... Ben, ce qui est drôle, c'est que comme tu prends une manga comme Fullmetal Alchemist, OK, que j'ai vraiment beaucoup aimé la série, puis c'est écrit ce qu'on appelle pour gars, c'est typiquement gars, sauf que c'est une fille qui l'a écrit, tu sais. Donc, on reconnaît beaucoup, justement, l'écriture un peu plus qu'ils appellent le shoujo manga. Tu sais, les Candy, là, tu sais, les Heidi, ça, c'était du shoujo, là. Ça, c'est pour filles. Puis là, maintenant, ils mélangent les centres, puis t'as des shoujo manga qui sont comme pour filles, mais c'est comme des trucs, justement, d'action, de science-fiction. Mais il y a un côté comme juste plus romantique, ça parle plus, les scènes d'action sont plus courtes, tu sais. Ils sont là, c'est pareil, il y a de l'action, mais c'est comme je trouve
puis
ça très...
Il y a des arcs-en-ciel puis des licornes.
Non, pas du tout. Non, mais il y en a des bons, il y en a une qui s'appelle Black...
Sailor Moon.
Oui, Sailor Moon. Ça, c'est...
Je n'ai pas vu les
premier
Sailor Moon.
Bon exemple de truc fait, toutes les filles ont capoté, ça fait fureur.
Ouais.
Mais il faut que je me le tape, celui-là. Il y en a une couple, j'ai pas vu les Naruto non plus. Là.
Mais
ça,
bon,
c'est des classiques.
On s'égare. Mais bon,
on s'égare sur la manga. On est en train de parler de la manga, on est en train de parler de la culture.
Manga. Où on rêverait un jour de voir un film de Michael Bay, mais qui aurait été écrit par une fille. Hein, sait-on jamais, ça pourrait peut-être arriver.
Ouais, alors là, mon gars.
Ah.
Remarque, quand tu vois les films
mais
de
pour
Catherine,
en revenir
quand
à...
tu vois les films de Catherine Bigelow.
Pour en revenir à Ghost.
C'est pas des films de Mickey, quoi.
Ouais.
Donc, je veux dire, elle a du punch, la dame.
Mais pour revenir à Ghost in the Shell...
Ouais. Non, mais ce qui m'a halluciné en revoyant le film, là, c'est cette manière, enfin, cette écriture où à chaque fois que tu as un personnage qui... à chaque personnage, tout à coup, part dans un monologue hyper compliqué où il t'explique toute sa manière de penser, finalement, ou qu'est-ce qu'il est, ou pourquoi, ou comment, ou machin.
Ouais.
Et c'est comme... C'est hallucinant, quoi.
Ben, c'est dur au cinéma, c'est anti-cinématographique.
Je me rappelais pas de ça, ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est l'anti-Blade Runner, tu sais, Blade Runner qui est hyper minimaliste. C'est l'économie des mots, tu sais. Et là, alors par contre, alors là, c'est la diarrhée verbale. Enfin,
c'est un film cyberpunk, ça reste dans le même style que Blade Runner, justement. C'est considéré
oui,
cyberpunk.
Ça m'a beaucoup fait penser à l'ambiance
de
Blade Runner.
Oh,
mais,
cyberpunk,
mais qui s'en allait pas du tout dans la même direction.
Il y a quand même des super belles fresques là, visuelles là, de Tokyo,
non,
les dessins.
Il y a quelques beaux plans. Le plan des deux visages.
Graphiquement, il y a plein de choses super.
Mais il y a aussi des trucs assez moches. Là. Il s'est raté aussi une couple d'endroits. Tu vois, il y a certaines scènes qui ont botché versus d'autres qui ont vraiment mis le paquet.
Je pense que c'est quand même de la bonne qualité d'animation. Là, tu sais.
Ben comme tu dis, 20 ans après, on s'est habitué tellement à d'autres choses.
Oui,
c'est
ça.
Dur de...
C'est dur
mais si tu compares avec à ce qui se faisait à l'époque, c'est de la très bonne qualité d'animation.
Mais là, il faut revoir toutes les séries japonaises
pas juste les séries japonaises, regarde les films américains de l'époque, là, de 95, puis tu vas voir qu'on s'est vraiment, on est vraiment gâtés maintenant. On se rend pas compte, là, mais toute l'informatisation... Ouais. Tu sais, 95, c'était... C'était les débuts là, de l'infographie. Là.
Ouais.
Pense-y, c'était quoi? Ouais. Là? C'était voyons,
ben, regarde,
Jurassic
Internet.
Park, c'est quelle année?
97.
Bon, ben, quelque chose comme ça, ouais.
Ben, tu vois, c'est
parce que le début...
Jurassic Park, c'est le premier film vraiment là, comme
ça. Je veux dire, vraiment, l'explosion de l'Internet, c'est quoi? C'est 84.
93, j'ai écrit un article sur Internet, puis j'étais la première à Montréal à le faire.
Oui, ça, c'est pas l'explosion. Toi, t'es prêt.
C'est 93. Non, c'est ça. Donc, c'est 80, ça serait 95, 93.
93, Jurassic Park. Ouais. Dieu, ça fait
93. 20 ans. Non, je savais que c'était quand même avant, mais c'est quand même, t'es dans les débuts. Là,
ah, mais oui, c'est vrai, ils l'ont ressorti en 3D en plus pour les 20 ans. Hein,
un film qui a particulièrement bien vieilli, mieux que le livre, en tout cas.
Ouais.
Les effets là, sont quand même. C'est ça, il y a du CGI là-dedans, puis ça apparaît pas.
C'est le premier film de moderne CGI, là, justement. Ouais. C'est le premier film moderne CGI. Avant ça, c'était... Ben, t'as eu Tron, là, mais Tron, c'est quand même...
Tron, c'est un autre...
Ouais. C'est une autre histoire.
Puis t'as eu Lawnmower Man, qu'on va couvrir un jour.
Oui, mais ça, tu vois le... Tu vois, hein, c'est l'époque 1.0, même 0.5. Là,
voilà un film qu'il faudrait faire juste pour un machin.
Ah oui,
ça serait
Mais l'histoire est excellente. C'est juste qu'il faut faire un... C'est, il est dû pour un remake, peut-être.
Ah, ouais, on en reparlera, Stéphane.
Mais pour revenir à Akira, moi, je trouve qu'il y a un gros problème de rythme.
Ghost in the Shell.
The Ghost in the Shell.
On
le fera, Akira, on le fera.
L'année prochaine.
C'est comme tu dis, Nick, il y a des diarrhées verbales, mais il y a quelque chose de bizarre au niveau du ton du jeu des acteurs. Moi, je l'ai vu en version japonaise sous-titrée. Je sais pas si j'ai vu les mêmes sous-titres de merde, mais j'ai trouvé ça low à regarder et à comprendre parce que c'est intense en termes de texte.
Ouais.
On dirait que la scène commence, c'est très, très mal monté. Quelque part. On dirait, la scène commence, les personnages ne parlent pas, là, c'est lent, ça dure 2-3 secondes de trop, puis là, ils se mettent à parler, ils bougent un peu. L'animation peut être très minimaliste pendant les scènes de dialogue.
Ouais.
Et là, ils finissent de parler et au lieu de couper ou d'enchaîner ou d'avoir une variété de plans, ça tête encore 2, 3, 4 secondes et là, ça coupe à d'autres choses. Je trouvais ça mécanique, très, très mécanique où...
Le réalisateur, fan des films de Bergman.
Ah, ok,
c'est ça. Parce que c'est
vrai. Genre de film.
Oh, mon Dieu.
Non, mais c'est
mais
vrai.
C'est carré, là. Ça coule pas, là, comme film. C'est pas
non,
soir.
Je suis pas tout à fait d'accord. Mais non, mais c'est vrai que c'est un film contemplatif, là. Ça, oui.
Ouais.
C'est clairement un film contemplatif.
Ça tombe pas dans ma
palette. Avec quelques scènes d'action, oui, mais.
Et puis, ils sont très bonnes. La fois où elle essaie de déchirer le tank, là, puis qu'elle se déchire, c'est merveilleux, là.
C'est hyper bien.
Ça, c'est dans le meilleur de ce que les Japonais peuvent faire.
Quand elle se déchire en
morceaux. Les muscles, elle devient grosse comme une espèce
mais ça,
de...
Ça, c'est du guns tout craché. Ah, c'est comme des trucs tout à fait...
C'est hot, ça.
C'est exagéré.
Mais c'est une fois qu'ils ont mis le paquet dans des scènes comme ça, ils le font d'une manière que... Il y a juste les Japonais qui sont capables de faire des trucs comme ça, là. Il y a comme quelque chose dans le rythme. C'est lent, puis...
Ouais.
D'un coup, ça arrache.
L'action est figée.
Il y a de quoi? Oui, figée. J'arrive pas à le décrire, mais ça marche au quart de tour. Là.
Ouais. Ben, le cinéma américain s'est complètement inspiré de ce genre de trucs-là. Hein,
maintenant,
ça,
oui. Ça, oui. Mais les autres, ils ont fait ça 20 ans avant. Ouais,
c'est ça. Et oui, ils avaient tout compris. Non, il y a clairement y a des choses géniales là, dans ce film. Mais c'est vrai que à revoir maintenant, c'est comme. Ah, c'est un petit peu laborieux quand même. On est habitué à tellement d'autres choses. C'est fou, quoi.
Il me semble que j'arrive à
quand même voir les qualités de ce film, ce qu'il a amené au cinéma moderne.
Je le bâche un petit peu, mais ça reste un film pour lequel j'ai un certain attachement. Je veux dire, je sais qu'à l'époque, quand c'est sorti, moi, mon film préféré, c'était Stalker de Tarkovsky. Là. J'étais dans une espèce de... On s'entend, tu sais.
Oui.
Puis j'aimais Antonioni, puis
que
Bergman et compagnie. Non, mais je les aime encore, mais pour ce que je les aimais à l'époque. Aujourd'hui, je ne mettrais plus ça dans le genre de film que j'ai envie de... Je sais pas...
Masochiste.
J'ai un de mes amis qui m'a déjà traité de masochiste parce que je lisais du Proust par... pur plaisir et pas parce qu'on m'avait forcé à le faire à l'école.
Ah ouais, ok, je comprends.
J'ai trouvé
ça très
drôle.
Je pense que je vais y aller.
Non, mais j'ai changé, tu comprends.
Que je ne voulais pas mettre un film de Tarkovsky à m'amener sa liste parce que je démissionne.
Stalker, il est là. Stalker, il est dans la liste. Bon, pas...
Come on, il faut le faire un jour.
No. Pas avant la fin de la saison, mais...
Pas cette année.
Non, pas
ça va être le dernier film qu'on va faire. Ça va être un Tarkovsky. On va dire l'on finit.
Quand on aura bien drillé.
OK, regarde, ce qu'on va faire, c'est quand Olivier va nous dire qu'il y a des problèmes de sommeil puis qu'il souffre d'insomnie, on lui sort Tarkovsky.
Voilà une bonne idée. Ça, c'est bien.
Ouais, je trouve que c'est vraiment quand même... Bon, ça sert à quelque chose. Anyway. Donc, il y a quand même... bon, puis là, rentrons quand même dans le vif du sujet. Le thème, là, c'est intéressant.
Ouais, c'est ça qui fait que le film reste important.
Moi, c'est la seule chose qui m'a vraiment accroché. Parce que pour être vraiment franc avec vous, j'ai passé un moment pénible. Malgré que c'est à peine 1h20, le film, j'ai vraiment pas eu de fun à le regarder. Sauf un petit bout vers la fin, quand ils sont mis à rentrer dans le vif du sujet plus philosophique par rapport à, justement... de quoi on parle. Ouais. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, mais c'était encore une fois de la diarrhée verbale. Mais sinon, ouais. En général, le film m'a pas fait passer un si bon moment que ça.
OK.
À part quelques images, quelques ci, quelques ça. Mais j'ai eu de la misère.
Regarde pas le 2, il est encore pire.
Oh boy.
Ouais, le 2, je l'ai vu au cinéma ici, d'ailleurs. Et ici à Montréal. Et c'est bien, c'est bon les chips?
Parce que là, c'est croûte, je me cacher.
Non, non, parce qu'on les entend bien. Mais le 2, je l'ai vu en salle ici à Montréal il y a quelques années. Et j'ai rien compris, je crois. C'était très beau, mais j'ai rien compris.
Visuellement. Mais en fait, je pense que tu aurais beaucoup mieux le film. Tu aurais passé un moins mauvais moment si tu n'avais pas eu les sous-titres.
Ah,
puis ça, je dis, conseillons aux auditeurs, écoutez-le pas sous-titré. Écoutez-le en version doublée. Ouais, ça reste d'animation.
Si possible, un bon doublage. Moi, je ne sais pas si le doublage français. Il y a peut-être un doublage français.
Je pense que le doublage en anglais. Si on prend la version remasterisée, puis le doublage en anglais doit être quand même assez bon. Là. Comme on l'a dit tantôt,
Je vais essayer de le revoir, la version remasterisée.
Tu le regardes. Tu te concentres sur le visuel.
Oui, j'ai pas pu le regarder à moitié parce que c'est tellement lourd en texte. J'avais tout le temps les yeux en bas de l'écran.
Exactement. Puis le texte. Si, moindrement, tu as une version comme la mienne qui était légèrement amateur. Les sous-titres, on fait juste les lire et tout. Puis c'est un film qui est comme très, très beau au visuel, donc c'est dommage. Ouais. Toutes les scènes, mais là, il y en a quand même, là, quand il n'y a pas de texte contemplatif ou est-ce que ça se promène avec la petite musique qui est une musique polyphonique, qui n'est pas du tout japonaise comme musique en passant. Là.
Mais elle est bien, elle sert.
Non,
bien,
la musique, ça, c'était bien.
Oui, ouais, non, ça, ça me plaît. La bande-son, c'est une des qualités du film. Très grande qualité du film.
Puis, il y en a pour un truc d'animation, surtout pour cette époque-là, même au niveau de la conception sonore générale, je pense qu'ils sont plus forcés là-dedans que dans d'autres aspects. Ouais. Que, mettons, le jeu des acteurs, ça aussi, je sais que c'est très, très culturel. Pour avoir une couple de films japonais en live action, je sais que le style est pas... On cherche pas peut-être les mêmes types d'émotions aussi ou ça, mais les acteurs, je les trouvais tellement carrés. Là.
C'est-à-dire flat.
Ouais.
Très flat. Mais si les personnages sont comme ça, c'est des cyborgs.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est des cyborgs. La gang, il y en a 3-4 des cyborgs. Là, mais c'est les...
Ouais,
il y a
mais
des
les
humains
autres,
aussi.
Mais c'est juste un peu les personnages principaux.
C'est les personnages principaux, c'est les personnages plus importants.
Mais c'est rude.
Tu sais, dès le début du film, que quasiment tout le monde est augmenté d'une certaine manière.
Écoute, le Puppet Master, les cyborgs.
C'est dur d'embarquer quand tu sens aucune émotion. C'est vrai. On dirait que t'écoutes des murs parler ou des machines carrément, là. C'est de ça qu'on parle, là. Mais des machines, c'est même Al dans 2001, il y a plus d'émotions que ça, là.
C'est t'sais. Vrai. Ouais, c'est vrai.
Fait que c'est... Ah,
c'est... non, Al.
Ouais, puis là, c'est
quand même, il n'y a pas beaucoup d'émotions.
Non, mais il y a du sous-texte, tu le sens.
Ouais,
à cause du ton de voix qu'ils ont donné.
Qui sont poignants, même.
À la fin, là, quand il chante la petite chanson.
Il est fucking inquiétant, hein.
Ouais. Il y a quelque chose. Alors que là, c'est vrai que tout est flat.
C'est monocorde, tu sais.
Ouais, elle cligne jamais des yeux. Genre, et c'est voulu, c'est clairement voulu.
Mais
je veux dire, tu sais, c'est tout ce truc-là où tu vois des personnages qui bougent pas.
Ça bouge pas.
Effectivement, il y a quelque chose de
mouvement de caméra non plus. Puis bon, quand il y en a, tu dis, oh, pourquoi tout d'un coup on me fait un genre de zoom dans le dessin alors que trois quarts du film, ça. C'est des plans fixes.
Écoute, je dois admettre, depuis tantôt qu'on parle, j'ai oublié de le dire tantôt, là, ça fitait, mais il y a. Moi, j'ai l'impression d'Antonioni rencontre Homer, tu sais. Genre
je vais aller me tirer une balle dans les toilettes.
Je crois même pas qu'on parle de Homer dans ce film.
Non, mais tu sais, ça
pour
parle
ceux qui
trop.
Si vous connaissez pas Eric Homer, vous avez tout un monde à découvrir. Bonne chance.
Tu sais que j'ai vu tous les films de Homer. Je veux pas encore diverger là, mais il y a un truc fascinant je trouve dans les films de Romer. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui me fascine dans les films de Romer.
Absolument.
Mais c'est sûr qu'il faut se taper un film de Romer, c'est pénible. Enfin, je veux dire, c'est...
J'avais un prof au cégep, là. Il haïssait. Nous autres, on arrivait, tu sais, on a 17 ans. On commence à découvrir cette année Kubrick, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, on trippe ben red, David Lynch. Lui, il les haït toutes. Il trippe sur Eric Rohmer. Puis
Jean-Luc Godard.
Puis Jean-Luc Godard, puis l'autre français, là, dans Nouvelle Vague.
Truffaut.
Rohmer par-dessus tout. Puis ils nous ont montré des films plus récents de Rohmer où il essayait de déconstruire la forme. Tout le contraire de ce qu'il a fait dans ses films théâtre filmé, là. il a fait des trucs assez flyés, merci d'ailleurs, là. Mais c'est comme si pour lui, le cinéma, c'était ça.
Oui, j'adore. Tu me rappelles certains cours universitaires où est-ce
quand
que
t'as 17 ans, là,
j'avais beaucoup de plaisir à écouter des films. Puis à un moment donné, tu réalises, tu dis genre, fuck it, là. J'ai le droit d'aimer. Je veux dire, tu sais, qui te font sentir que Scorsese, c'est pas du grand cinéma juste parce que c'est pas c'est pas assez obscur, là, tu sais. Tous les films qui te sortent, là, c'est des trucs comme vraiment pas connus, là. Rob Grillet, mais pas.
Oh, attends,
pas l'année dernière à Marie-Ebane,
mais. J'adore ça.
Ouais, mais là, c'est ça.
C'est plus flyé que David Lynch.
Tu parles des films sadomaso, là.
Ben écoute, je les ai pas toutes vues. Il y en a un seul qui est sorti ici, c'est
Le bruit qui rend fou?
Non, là, pas La belle dormeuse ou machin.
Mais il y a L'année dernière à Marie-Ebane, qui est un scénario de Rob Grillet, mais
ouais,
c'est pas
celui-là,
René,
mais le seul qui a réalisé,
que j'aime
qui
beaucoup,
est sorti
d'ailleurs.
Ici. Puis c'est plein de toiles de Magritte, c'est des références à Magritte tout le long. C'est vraiment hallucinant. Ça ressemble à Wild at Heart ou Blue Velvet, mais en plus fucké.
Je sais pas si je l'ai vu.
Mais il a fait ce gars-là, il a fait comme 10 films.
Mais j'ai vu à la Cinémathèque, il y avait une rétrospective, on en avait vu plusieurs, puis j'avais été marqué par un qui était très drôle, que c'était carrément du sadomasochiste, là, pas partout, mais ça m'avait frappé, quoi. Il y avait comme toute une scène, puis c'était vraiment clairement dit. Rob Grillet.
Sérieusement, si vous pouvez mettre la main sur des films d'Alain Rob Grillet, ça, là.
Le bruit qui rend fou, il est bon, pas ça.
Moi, j'en ai vu un autre, c'est dans un train, puis ça arrête pas de se répéter. C'est comme un peu Le jour de la marmotte, mais sur un trip d'héroïne. Là. C'est complètement fou. Là.
Ouais,
c'est,
ben,
il y a de l'imagination là-dedans, puis carré.
C'est le genre de film qu'on te montre à l'université. Puis,
c'est ça, tu vas pas voir ça à TVA le samedi après-midi.
C'est comme Chris Marker, c'est comme... On n'arrête pas. On est fous. Aujourd'hui, on parle de ce cinéma.
on diverge tellement. Là.
Bon, Ghost in the Shell, c'est un film d'auteur.
Ben, je crois que Ghost in the Shell...
rentre vraiment là-dedans.
Ghost in the Shell, il est à la... C'est ça, c'est bizarre parce que c'est des scènes de manga avec les filles tout nues qui éclatent de partout. Ah, puis là, les guns. Oui. Ce qui m'amène d'ailleurs à le prochain vin.
on a fini l'autre déjà?
Non, mais il faut qu'il y
ait. Le prochain vin, ok.
Il faut le plugger.
Alors, le prochain vin, c'est un rouge, ce coup-ci. Ouais, c'est un Syrah.
La même maison.
De la même maison.
La même maison, le même dessin.
Donc, ça vient toujours de l'État de Washington. Et alors, celui-là, il a une étiquette très drôle, puisqu'il y a une grosse bombe. Et ça s'appelle Boom Boom.
Et l'étiquette est vraiment formidable.
Ouais, elle est vraiment drôle. C'est très,
c'est très bébé.
C'est vraiment très drôle.
Ça va très bien, je pense, quand même. Avec le...
Et donc, ben, on va goûter ça. Et en attendant, on va s'écouter un petit extrait. Allez, badaboum. Hey.
You will not find a corpse, because I have never possessed a body.
Why are his sensors on? What the hell is this?
All external controls are turned off. The body's using its own power source.
I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers. However, what you are now witnessing is an act of my own free will. As a sentient life form, I hereby demand political asylum.
Is this a joke? Ridiculous! It's programmed for self-preservation!
It can also be argued that DNA is nothing more than a program designed to preserve itself. Life has become more complex in the overwhelming sea of information. And life, when organized into species, relies upon genes to be its memory system. So man is an individual only because of his intangible memory. And memory cannot be defined, but it defines mankind. The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought parallel to your own. Humanity has underestimated the consequences of computerization.
Nonsense! This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life form.
And can you offer me proof of your existence? How can you, when neither modern science nor philosophy can explain what life is?
Oui, c'est ça. Alors, pendant l'extrait, Olivier disait que sur certains films, on rajoutait une narration pour que ça soit clair. Alors imagine une narration sur Ghost in the Shell pour expliquer.
Mais attends, il n'y a pas de place, il y a déjà trop de dialogue.
Ben, c'est-à-dire... Imagine, blablabla, là, par-dessus, t'as la voix de Dieu qui explique. Là. Mais parlons-en de Dieu et de l'âme et tout. Vous savez que...
Mais avant on va faire un petit cheers.
Ouais. Ah ben oui, on parle du vin.
Parce que là,
On a ouvert le vin. Ben, c'est ça, l'auteur de la série.
Ouais, il n'est pas trop sucré, ça.
Si je ne me trompe pas, qui s'appelle... C'est quoi dans l'auteur, Nick? On le dit tantôt, c'est Shiro.
Masamune Shiro.
Masamune Shiro.
L'auteur du manga, donc.
Ouais. C'est-tu l'auteur ou le réalisateur? Ah non, c'est le réalisateur. Le réalisateur est un ex-catholique. Il a été... Ce qu'on s'attend pas au Japon.
OK, donc Mamoru Oshii.
Mamoru Oshii a été élevé comme catholique. Et à un moment donné, sans expliquer pourquoi, dans la vingtaine, ça arrive, il a arrêté d'être catholique. Mais il est resté fasciné avec la religion catholique. Et l'auteur, que ma mère s'en est chez eux, lui, il est fasciné par des... c'est quelqu'un qui est fasciné par ce genre de questions, l'âme, la question de... Bon, le fameux « Ghost in the machine », avons-nous...
Mais alors, ça, c'est ghost... dans iRobot, c'est... Ils ont pratiquement la même expression.
Ghost
c'est
pas dans les... Oui, ben, le Ghost in the Machine, c'est connu comme expression.
Ghost in the Machine, ça date d'il y a super longtemps, c'est une expression. Ouais. Oui, c'était c'est un livre qui s'appelait Ghost in the Machine.
C'est même pas dans le livre d'Asimov, ça, Ghost in the Machine.
Ghost in the Machine.
Il parle du principe, mais il dit pas dans ces mots-là. Okay.
Non, mais Ghost in the Machine...
Dans le film,
ils disent si ouais, Ghost in the Machine.
Ouais. Si je me trompe pas, Ghost in the Machine, c'est... Ah ouais, c'est ça. C'est le philosophe britannique. Hey, c'est tellement formidable faire un podcast avec Wikipédia devant soi. Ben là, ouais. Quand même, les amis, on ne pouvait pas faire ça dans les années 90. Ça vient du philosophe britannique Gilbert Rouse. C'est probablement qui décrit un truc de Descartes sur le dualisme. Puis c'est la question de concept de l'esprit. Est-ce que en fait, c'est tout... moi, j'ai étudié en philosophie de l'esprit à l'université. J'ai pris un cours.
OK, je pensais que c'était un bac en philosophie de l'esprit. On me disait, waouh!
Juste un cours. Ça a été un de mes cours les plus fascinants. D'ailleurs, c'est là que je suis devenue athée en passant. Hein, parce que c'est ce cours-là qui a comme changé un peu ma vie. Parce que peu de gens peuvent imaginer qu'avant l'âge de... Moi, j'avais 18 ans quand j'ai eu ce cours-là. J'étais quelqu'un de très...
Total catho.
Non, j'étais pas du tout catho, mais très spirituel. Okay. Mais ouais, j'avais comme des notions spirituelles. Mais j'étais scientifique, donc j'étais un peu ambigu par rapport à mes croyances. Mais j'avais des croyances, tu sais. Okay.
Mais être athée, ça veut pas dire...
Si.
Être athée,
tu... l'athée, OK, il y a différentes définitions d'athéisme, mais l'athéisme pur, là, c'est un rejet de...
De la spiritualité en général?
Pas de la spiritualité, non, c'est ça serait du surnaturel. Okay. De la croyance qu'il y a un monde externe. Puis c'est toute cette notion-là.
Qu'il y a un paradis avec des arcs-en-ciel.
Dans ce cours-là, je me rappelle, j'avais fait un travail qui m'avait complètement démoralisée, dans lequel, finalement, j'en arrivais à la conclusion qu'il n'y avait aucune pertinence à ce qu'on ait une âme. Tu sais, je veux dire, comme c'était les monothéistes versus les dualistes. Puis c'est tout ce débat-là qui est là-dedans. Parce que si on construit une machine, évidemment, nous, l'être humain, on suppose qu'on a une âme.
Dans le film, là, tu dis.
Mais dans la vie en général. Oh, okay, tu sais, c'est ça le débat de ce film-là. C'est ça qui est fascinant. C'est que nous, on suppose qu'on a une âme.
Ouais.
Ça fait partie, on a une conscience. On s'imagine que notre corps est une chose puis qu'on a une conscience. Alors, si on construit une machine qui est distinguable, on peut plus savoir si c'est une machine ou pas. Est-ce qu'elle croit qu'elle a une conscience ou pas? Puis c'est ça tout le thème du film, c'est qu'à travers le fameux Internet, une conscience qui est née puis qui se revendique d'être humain. C'est un thème qui revient beaucoup dans le Star Trek Next Generation, que j'ai très hâte qu'on fasse parce qu'il va y avoir des choses intéressantes à dire. Est-ce que tu as le personnage de Data? Est-ce que Data est ce qu'il appelle sentient, un être intelligent?
Comment tu traduis sentient en français?
Je sais pas si...
Parce que j'entends l'emploi de ce mot tout le temps, je cherche une traduction française.
Peut-être qu'il n'y en a pas de traduction. Mais bref...
C'est quand une machine devient consciente de son existence,
c'est ça, finalement. Déjà, si je ne me trompe pas, ça serait Alan Turing. C'est Alan Turing qui est le premier à postuler cette notion-là, qu'on va arriver un jour où est-ce que la machine...
va devenir consciente de sa
propre existence. C'est même pas qu'elle va être consciente, c'est qu'on pourra pas le savoir.
Ouais, absolument.
C'est exactement la même chose.
Mais c'est plus subtil que ça, c'est que tu vas voir, puis tu peux déjà, ils font déjà ce qu'ils appellent des bots. Donc, c'est des machines simulées, là, un petit peu comme Deep Blue ou l'autre, là, qui s'était...
Deep Throat.
Non.
Oui, c'est lui qui a gagné à Jeopardy.
Exactement, tu sais.
Le vin coule à flot.
En tout cas, dans la bouche d'Olivier.
C'est bon, Deep Throat. Il y en a fait trois, là.
Eh oui, puis en plus, vous savez qu'il est mort, l'acteur de Deep Throat, il est mort il n'y a pas longtemps. Donc,
Il est mort d'une fellation.
On a parlé maintenant. Oui. Il s'est cassé le cou en se faisant une auto-opération.
Il s'est cassé le
classique. Bon, revenons à... on était parti sur des concepts philosophiques, mais je vois que ça t'intéresse pas.
Non, moi,
C'est trop...
C'est faux. Je vais rétorquer à ce que tu dis. Qui avait des croyances.
Je veux juste finir, c'est que Turing a dit qu'on ferait pas la différence entre une machine. Puis déjà, ils font des expériences avec des bots. Puis les gens, ils sont pas capables de faire la différence. Ils sont pas capables de dire, est-ce que j'ai une machine devant moi ou un être humain?
Imagine dans 10, 15, 20, tiens. Hein?
Ouais, exactement. Bon.
Moi, je tiens à dire que je suis pastafarian. Hein? C'est tout, c'est ce que j'avais fuck? À dire.
Officiellement, sur mon Facebook, je suis pastafarian.
C'est le The Church of the Flying Spaghetti Monster. Renseigne-toi.
Ah, c'est cool, voilà. Ça, je ne savais pas ça.
Ah, c'est pour se moquer
des catholiques qui un peu intégriste, tu sais. Ouais. Ils sont full. Non, c'est très drôle. Allez voir ça, le pastafarisme.
Ah oui, non, c'est une belle chose.
Ça me plaît,
ouais. C'est une belle satire.
D'ailleurs, on peut faire un lien entre le pastafarisme, c'est ce qu'on parle avec Albator puis les pirates.
Ouh.
Maintenant que j'y pense. Pour faire le bruit.
Vas-y, là-bas.
Tu sais très bien que le pastafarisme.
Ghost in the Shell nous amène dans des.
Le symbole, c'est les pirates.
Ah non, moi, je pensais que c'était un gros monstre.
Oui, parce que il y a ça aussi, mais le pirate est un prophète dans le pastafarisme parce que.
Je vais pas à l'église.
Allez lire sur Wikipédia parce qu'il explique ça. C'est genre juste, ils se moquent des gens qui font des causes à effet, tu sais, parce qu'on remarque que tel événement s'est passé, donc ils vont dire que c'est de la faute de ça, mais il faut lire. Là, j'ai oublié, c'était quoi pour les pirates? Je pense à rapport au réchauffement de la planète ou parce qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque, donc c'est la faute des pirates si la planète.
Clairement, mais ça part des Vikings avant les pirates, là,
ouais.
C'est ça.
Hein. Il y a un lien entre les
pirates. Il était roux.
Il y a un lien entre les pirates et le Giant Spaghetti Monster qui a créé la Terre en 7 jours parce qu'il avait bu trop de bière.
J'aime ça. Faut faire un film.
Wow. Décidément, ça nous amène dans des endroits vraiment particuliers.
Mais on parle d'âme, on parle d'âme, on parle de conscience. Moi, j'essaie d'amener un peu de philosophie de l'esprit là-dedans.
Mais t'as raison, t'as peut-être...
Mais visiblement...
visiblement, il y a un réfractaire à la table.
On se fout de ta gueule ici. Hein.
On se fout de la philosophie.
Dans le coin droit.
Mais toute ma vie, il y a ça, Kalia, ça vient de ça. Ben, toute mon intelligence.
Je vois ce que j'ai à dire, c'est genre des trucs comme quark, puis pastafarian, puis...
puis les relations du prout.
Bon, voilà,
c'est toi le médiateur.
Je pense qu'il est temps qu'on finisse. Tu as autre chose à dire là-dessus?
Ouais, qui a autre chose à dire?
Moi, je voulais parler des camouflages
thermo-optiques.
Thermo-optique. C'est une des raisons pourquoi ils ont pu justifier qu'il fallait qu'ils se mettent à poil. Mettons que c'est. Ouais.
Ça, c'est un des effets qui est bien upgradé dans la nouvelle version.
Ah ouais?
Ouais. Bah, du coup, c'est du CG, puis c'est beau, puis c'est comme...
Mais ça,
là, c'est comme quand tu vois dans la version originale, ouais, c'est dessiné, là, mais c'est un peu... Il y a un petit côté un peu rough, mais je trouve que ça marche, c'est beau.
C'est parce que moi, je vais juste dire que c'est une réalité maintenant, ça se fait du vêtement...
Le camouflage thermo-optique?
Ouais. Ben, pas thermo-optique, là, mais
non,
ils font
de
des...
Non, c'est la diffraction de lumière.
Ils se font des... Ouais,
le invisibility cloak
de
Harry Potter.
Ça existe. Ils sont capables de rendre invisibles des objets gros comme un 25 cents. Sans problème, puis ils disent que ça sera pas très long qu'ils vont pouvoir faire plus gros que ça.
Là, je sais pas si c'est... J'ai trouvé une vidéo sur YouTube.
C'est toute une question de réfraction de lumière.
Ouais, c'est ça.
Ah, les scientifiques.
Oh, ça a pas l'air.
Belle scène d'ailleurs. Belle scène de poursuite dans le Tokyo futuriste.
Mais on dit
film cyberpunk, mais en fait, c'est plutôt un film post-cyberpunk.
Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul?
Non, mais cyberpunk, ça implique une dystopie, non?
Si vous regardez ça, pensez-vous que c'est vrai?
Ça implique un monde genre détruit.
Post-apocalyptique.
Ouais, anarchie, machin. Alors que là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est un monde futuriste dans lequel tout a l'air de rouler relativement normalement.
Du néo-steampunk à ce moment-là? Ouais,
peut-être du néo-steampunk.
Ah oui,
du
néo-cyber.
C'est néo, c'est post.
D'accord avec toi, quand j'avais lu ça, c'était le côté. C'est vrai.
Alors,
que ça
je sais pas si on appelle ça du post-cyberpunk ou autre chose, mais c'est
mais
pas exactement
du cyberpunk. Mais dans Blade Runner, c'est du cyberpunk aussi.
Ouais, Blade Runner, c'est du cyberpunk parce que là tu vois l'espèce de monde qui est visiblement passé par du nucléaire, fait qu'il pleut tout le temps, il fait noir tout le temps, enfin genre tout est sale, tout est...
Caractéristique des films japonais, c'est pas une méchante compagnie, hein, vous avez remarqué?
Ouais.
C'est le gouvernement. Souvent, c'est le gouvernement dans les films japonais, dans les trucs japonais.
Mais il y a quand même de plus en plus aussi dans les films américains.
Ah, mais dans les films américains, c'est toujours le mythe de la méchante compagnie. Là.
Ouais,
ils
mais
adorent ça. Terminator.
Maintenant aussi, genre, t'as des vilains, dans le gouvernement, etc., etc., enfin...
C'est toujours une conspiration,
ouais.
Dans tous les cas.
Il y a toujours une conspiration, mais la méchante compagnie, c'est typiquement...
Ah oui, c'est typiquement américain.
Oui, mais on sait ou on se doute que de nos 20-30 ans, il y a des chances que l'humanité tergiverse vers quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on aime ça un peu, essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer quand on va être pas loin de ça ou quand on va être là-dedans. Là. C'est Umbrella Corporation ou Skynet ou... et j'en passe. Hein, il y en a combien.
Mais non, les gentilles compagnies vont nous rendre heureux et tout. On va être
sauvés. C'est Apple qui va sauver le monde.
Ben, tu vois, Apple, on va avoir du goût, on va avoir du design, on va être dopé.
Ça va être beau partout comme dans 2001. C'est pour ça, dans 2001, c'est Apple. Fait que...
ouais, ça, on va bouffer du Monsanto. Tout ça.
On va être génétiquement modifiés nous-mêmes.
Ouais.
On va être... Moi, j'ai hâte d'avoir des doigts, là, comme dans le... Tu sais, les doigts, là, qui les...
tapent. Ah, ouais, qui...
Moi,
ah,
je trouve ça extraordinaire.
Ça,
ouais,
ça, c'est fou. Mais ils n'ont pas pensé à le faire à l'interne. Hein. Plutôt, il faut que ça soit physique.
Non, mais c'est ça
voit.
Que je trouve drôle. T'sais, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas juste comme genre le cerveau... Tant qu'à ça, ils se parlent... T'sais, ils sont connectés.
Le fait qu'il a de conduire un char avec des plugs dans le cou, puis lui, il faut qu'il tape avec des multidoigts. Ça n'a pas rapport, là.
Mais ça, c'est des aberrations.
C'est
mains arachnéennes. Dans les films de science-fiction.
Mais c'est une belle image en maudit, par exemple.
Oui, oui, c'est super drôle.
Ces doigts qui se démultiplient, là, il y en a combien, genre 40 au bout de la ligne?
C'est drôle.
Mais ceci dit, tu peux imaginer une espèce d'évolution où est-ce que le truc dans le cou, là, il est venu après les doigts qui s'étendent, puis que c'est juste que les gens sont habitués, puis ça marche pas bien, tu sais. Pourquoi ils referaient les choses?
Les trucs dans le cou, c'est tellement la matrice. Ils ont tellement récupéré
c'est
ça.
Complètement,
là.
Ah, ben complètement,
c'est la même idée.
Non, mais c'est avoué.
Mais
là,
c'est la matrice qui a copié sur Ghost Michel.
Mais même avant ça, il y a Johnny Mnemonic aussi. Là. Il y avait un petit casseau dans la tête puis il se plaquait de quoi dans l'oreille. Là. Je veux dire, c'est la même affaire.
Johnny Mnemonic, c'est après...
Avec le
c'est
même audit acteur. Non, c'est avant.
Keanu.
Keanu Reeves, c'est comme 5 ou 10 ans.
Avec Keanu.
Hein. Ça, c'est un avis. Ouais, il sortait de Bill and Ted. Là, wow, awesome.
Ah, ouais, moi, je pensais que Johnny Mnemonic, c'était en 95.
C'était avant Matrice.
Matrice, c'est quoi, 99?
Ouais, c'est 99, la Matrice.
Non, Johnny Mnemonic, ça n'a pas le même budget que la Matrice. Non.
Non. Puis ça n'a pas la même classe.
Non.
J'ai hâte de le faire la Matrice.
Le Chain Reaction aussi entre les deux.
Ça va être intéressant.
J'ai oublié complètement qu'il a été tourné en partie à Montréal. C'était avec Morgan Freeman.
Chain Reaction.
Mais Johnny Mnemonic, c'est
un... Mais non, louez-le pas.
Johnny Mnemonic, ça vient de William Gibson. C'est un scénario de William Gibson.
Le frère de Mel?
Ah, tu viens d'étaler ton nom culture de science-fiction.
Oui, effectivement.
Olivier, je suis désolée.
Ça vole bas ce soir.
Il y a 3-4 auteurs de science-fiction qu'il faut connaître, puis ça fait partie.
Ce soir, ça vole très bas.
Isaac Asimov, je connais Jules Verne.
Tu connais Arthur C. Clarke.
Je connais Michael Crichton.
Arthur C. Clarke.
Oui.
Marjorie Kitchen, enlève ta liste.
Oh, yeah. Je l'aime, moi.
Bon, et plus rien à dire sur Ghost in the Shell, alors?
Mais on a parlé juste 3 minutes. Hein?
Visiblement, on n'a plus rien à dire. Ouais, moi, j'ai essayé de parler de philosophie, puis c'est fini.
Bon, c'est quoi la conclusion? Un film qui a mal vieilli, qui a des bonnes idées, mais qui a été fait un petit peu tout croche. Bon, merci, bonsoir.
Oh la vache.
Bonne part de son, belles images.
Pas tout le temps.
Visuellement, c'est quand même beau, là. Compare, là.
Moi, je trouve quand même que l'animation est
belle.
Non,
c'est un beau dessin.
Wow.
Certaines scènes ont peut-être un petit peu souffert, mais je trouve que globalement, c'est que ça reste un beau film, quoi, vraiment.
Il y a des belles passes, mais il y a beaucoup de raccourcis dans le film au niveau de l'animation qui gâchent beaucoup, puis ça a rapport avec le rythme, le montage, les scènes qui sont trop statiques. Le contemplatif, le Tarkovski-esquisme.
Ouais, mais là tu parles. Là, on parle pas de la même chose. Nous, on parle juste comme de l'esthétique visuelle, le fait que le montage, le rythme, etc. Oui,
ça vient tout en ligne de compte. Il y a des scènes qui sont vraiment veg, qui sont plates à regarder, qui sont pas belles, puis il y en a d'autres qui sont qui t'en fous plein la gueule. Ouais. Sérieusement, là, c'est pas toutes les scènes qui sont égales dans ce film-là.
Ouais.
Ils ont mis le paquet sur les scènes d'action, alors que les scènes de dialogue sont très...
Vous savez que le thème avec les chants, là, ça parle de mariage.
Ben c'est un truc...
C'est une chanson de mariage.
Je pense qu'il l'a juste pris parce que ça sonnait bien.
Tu crois?
C'est comme tout le monde qui prenne Carmina Burana pour mettre une espèce de truc un peu spooky quand c'est un truc religieux. Là,
mais la conscience qui vient de l'ordinateur qui se met dans le body, qui est comme androgyne, machin, c'est comme un genre de mariage.
Ouais, y a... Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose.
Ça, c'est une belle idée.
Ouais, je pense que ça a du sens.
Tu vois, c'est un gars parce que deux filles qui se marient, ça marche pas.
Ah, de là que c'est un androgyne. C'est pour ça qu'il l'appelle He.
Ouais,
c'est dans un corps de fille.
C'est un gars dans un corps de fille.
Il y a une voix de gars.
C'est parce qu'il y a comme deux gros seins, donc c'est comme...
Ah, dans la nouvelle version, c'est une voix de femme. Puppet Master.
Ben oui, c'est parce que maintenant, on a évolué culturellement. C'est correct, le mariage gay.
Ouais.
Voilà.
C'est une voix de femme. C'est une des choses qui a changé dans une version de 2008.
Intéressant.
Et ouais.
C'est Olivier. Super inspiré. OK, bon. Ben,
donc, je pense que là, on a couvert, on a fait deux films japonais cette saison, ce qui est bien. Donc,
ce qui est assez.
L'année prochaine,
on va faire un film de science sur nous au moins.
Qui est
pas fait de sci-fi, tout à fait.
T'es terrible.
Ben, peut-être qu'il va sortir un jour.
De quoi?
son auteur préféré.
Non, mais il fait dans le fantastique, il fait pas dans la science-fiction. Non, c'est ça, comme pas loin, mais c'est pas tout à fait.
On fera un spin-off fantastique à un moment donné.
Mais ça vaut la peine. Le film de Sion Sono, là, vous allez vraiment triper.
Comment t'as dit?
Sion Sono.
OK.
Yeah, écoute, il a à peu près fait 20 ou 30. Il en sort un par année. La moitié ne sont pas sortis ici. Moi, j'ai vu tout ce qui est sorti ici, puis je suis fasciné.
On devrait se faire. Moi, c'est parce qu'il y a, un film de science-fiction japonais auquel je pense que. Ben, une série de science-fiction japonais auquel je pense que je rirais tellement de vous faire regarder ça. Ça serait trop drôle. Mais il faudrait que ça soit dans une soirée trash où est-ce qu'on se fait tous voir un film qu'on pense que les autres vont comme souffrir à le regarder, mais profondément.
Mais ça aussi, c'est un bon concept.
Ça serait drôle. Parce que moi, je vous avoue que j'aurais tellement du fun à vous l'imposer.
La saison prochaine, on va
vous l'imposer, celui-là.
On peut avoir un nouveau concept thématique la prochaine saison, où à chaque épisode, c'est un renouveau complet.
C'est un renouveau complet.
Bon, ben, non, je pense qu'on a
trop d'attente.
Il faut tellement qu'on arrête, là, c'est parce que là, on a trop...
On
a vraiment fait le tour. Ben, non, en passant, on n'a probablement pas fait le tour des concepts philosophiques dans Ghost in the Shell, mais visiblement, personne
n'a C'était peut-être pas le soir pour en parler. On avait...
Donc, si quelqu'un est intéressé, venez me voir sur Twitter, envoyez-moi un petit mot, on s'appellera, puis on fera une belle conversation sur la notion de l'âme, l'existence de Dieu ou pas, voilà, etc., ces choses-là. Les concepts de Turing, puis notre philosophe anglais qui a inventé le mot Ghost in the Shell.
Et si vous voulez en savoir plus sur l'église pastafariane de Flying Spaghetti Monster, venez me voir sur Facebook. Hésitez surtout.
C'est bien, justement, j'allais vous demander où
vous recommander des bons épisodes de South Park.
OK, donc Olivier, c'est sur Facebook, Marie-Louise, c'est
Twitter.
Et Nicolas, on va te voir où et pour quelle raison? Obscure.
Est-ce que vous voulez vraiment savoir? Quelle raison vous voulez venir me voir? Non, ben moi c'est sur Twitter aussi. Et tout le reste c'est sur 24quark.com, 24quark.com ou sur iTunes. Et puis sur Twitter c'est @24quarks aussi, au pluriel toujours. Et puis la page Facebook bien sûr. C'est chouette, il y a plein de gens qui nous mettent des likes et des petits commentaires. C'est cool, on aime ça. N'hésitez pas sur iTunes aussi à nous mettre des ratings sur iTunes. Ça nous fait, comme ça peut nous faire monter un petit peu dans le. Dans les sélections là, de podcasts.
Ouais, si jamais vous nous aimez, vous avez envie de nous aider à nous faire connaître, on aurait peut-être besoin d'un petit coup de main. Comme ça, on est occupés toutes les trois. Mais... je serais pas contre d'un petit animateur des médias sociaux ou des trucs comme ça.
Ouais. Ouais. Et alors, donc, et dans deux semaines, on va, enfin, dans deux ou trois semaines, on n'est pas encore tout à fait sûr sur la date, mais en tout cas, ça va être dans ces eaux-là.
Plus
on
indigent,
va, ouais, peut-être plus. Ouais, t'as raison. Peut-être avec un petit peu d'avance.
Dans en fait. Une, deux ou trois semaines, à voir. Peut-être dans un an.
Donc, on va retourner au thème des extraterrestres avec le premier long métrage du réalisateur sud-africain Neil Blomkamp, le protégé de Peter Jackson, et c'est pour District 9. Sorti en 2009. District 9.
J'espère que t'aimes ça, là.
Il faut que je le revoie. Parce que entre District 9 puis le prochain qu'on fait dans le podcast.
On fait une boîte de production ensemble, moi puis lui, on n'arrête pas de se signer.
Ah, non, mais il y a plein de belles choses. Ça part pas d'un court-métrage, ça, District 9?
Oui, ça part d'un court-métrage.
Je suis sûr que le court-métrage était beaucoup plus efficace que le long-métrage. Mais j'ai l'impression qu'ils ont étiré la sauce. C'est la seule chose que je me rappelle de.
Là-dessus, j'aurais la misère à être en désaccord avec toi. J'avoue que t'as pas.
Il y a plein de belles idées.
Mais il y a des qualités extraordinaires.
Mais on va réserver ça pour le prochain.
On a trop de fun.
Voilà. Et puis, bon, bien sûr, on va s'écouter la bande-annonce pour finir parce que c'est comme ça que c'est chouette.
Bien japonais.
La bande-annonce de District 9 en. Ah oui, non, oui. En néerlandais. Oui, en néerlandais. Donc voilà.
Oh, si vous êtes capable de trouver la bande annonce de District 9 en japonais, là.
Là, vous êtes. Oh, je suis. Ouais. L'internet est plein de. Donc voilà. Merci d'avoir survécu à ce. Bravo si vous avez survécu à ce gros n'importe quoi qui était cet épisode.
On a toujours plus de fun une semaine à l'autre. Hein. C'est rendu. Inacceptable.
On va essayer d'être un petit peu plus. On essaiera d'être un petit peu plus focus la fois prochaine.
Et on est plus divertissant. C'est lequel des deux qui disait ça là quand...
Quoi, on est plus
les deux réalisateurs japonais là. Non, c'est super.
C'est ça, divertissant versus.
Versus trop intellectuel.
Ok.
Je pense qu'on divague des fois d'un plus divertissant, plus intellectuel, mais je pense qu'on poussait pour atteindre une balance éventuellement.
Ouais, c'est vrai. Ok. Et bien sur ce, donc merci de votre fidélité et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.
Nobody comes back late at night anymore. They have more security.
The government noticed that they were moving into new areas. That's when things started to get out of hand.
They don't belong here.
They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things. At least they're keeping them separate from us.
A lot of bad things started to happen.
They must just go. I don't know where they go. They must just go.
We're at the breaking point. People are living in fear.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.